Aujourd'hui, la masterclass de Laurent Lebon avec Anaëlle Pijat.
Nous avons donc avec vous, Laurent Lebon, cette masterclass de France Culture qui se déroule en public au studio 105 de la Maison de Radio France. Le principe de cette collection est le suivant, savoir comment des artistes ou des acteurs du monde de l'art tracent leur chemin. De leur début jusqu'à leurs réalisations les plus importantes, les invités de ces entretiens nous racontent les étapes de fabrication de leurs projets, pour vous, Laurent Lebon, de vos expositions. Avant de véritablement débuter, je vais rappeler quelques éléments de votre parcours. Depuis une vingtaine d'années, vous avez mis vos compétences au service de plusieurs grands musées. D'abord le Centre Pompidou à Paris, puis le Centre Pompidou Metz, dont vous avez été le premier directeur. Et vous êtes aujourd'hui le président de l'établissement public du Musée National Picasso Paris. Vous êtes un commissaire d'exposition à la pensée très originale. Et aussi, pourrait-on dire encore, un inventeur des livres qui accompagnent vos expositions. Pour revenir à vos débuts, vous avez fait souvent des choix à contre-pied des voies habituelles, peut-être ce qui a contribué à la rapidité de votre parcours. Alors vous avez fait Sciences Po, l'école du Louvre, puis au lieu de passer l'ENA comme on aurait pu l'attendre, vous avez décidé de passer le concours du patrimoine. Et là, jeune conservateur, vous avez choisi d'entrer non pas dans un musée, mais dans l'administration centrale du ministère de la Culture, où vous êtes devenu inspecteur de la création artistique en charge de la commande publique, ce qui vous a permis pour quelque temps de considérer la France comme un grand musée à ciel ouvert. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre choix, Laurent Lebon, de tourner votre vie vers l'art ?
Oula ! C'est les mystères de la vie. Je crois que vous l'avez dit très aimablement en disant que j'avais totalement échoué en ne présentant pas l'ENA. Oui, effectivement, encore. Voilà. Mais bon, on ne se refait pas. Mais c'est un moment qui arrive. Pour être très honnête, c'était quand j'étais à Sciences Po. On avait la chance, à ce moment-là, d'avoir des emplois du temps assez libres. Internet existait peu, mais j'ai cherché une école où on pouvait avoir un autre type d'enseignement et de l'histoire de l'art. Et en fait, j'ai vu que l'école du Louvre se trouvait de l'autre côté de la Seine, et donc j'ai fait un peu l'école buissonnière.
Voilà. Parce que c'était
j'étais dans un milieu social qui n'avait pas d'attache spécifique avec le monde de l'art, ni avec la culture, et voilà, c'est arrivé comme ça. Et au moment où il a fallu choisir une voie, comme toujours dans le monde de la culture, dans le monde de la culture, c'est un petit peu comme dans le monde du football. À la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Dans le monde de la culture, à la fin, il y a toujours Jack Lang. Jack Lang avait eu des voix un petit peu secrètes, je crois, qui lui étaient venues de l'Élysée, puisqu'à l'époque, on ne savait pas que le président de la République avait certaines attaches avec des conservatrices, ou en tout cas l'une d'entre elles, dans un grand musée. Cette personne qu'on doit saluer ce soir, parce que c'est grâce à elle qu'à un moment, elle a dit il faudrait peut-être revaloriser ces personnes qui s'occupent de la vie des musées et qui ne touchent pas grand-chose à la fin du mois, ce qui n'est pas très grave, ça, mais qui n'avaient absolument aucune carrière. Jack Lang a créé ce qui est peut-être une très mauvaise idée, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui me permet d'être avec vous ce soir, c'est une école pour former à ce métier étrange qui est conservateur du patrimoine, un mot horrible, conservateur. Enfin, de toute façon, dans d'autres métiers, on n'a que des mots horribles, conservateur, commissaire, inspecteur. donc on finit en prison à la fin de la journée. Voilà, mais donc du coup, effectivement, j'ai eu la chance de passer le premier concours de cette nouvelle école et de me lancer dans cette belle aventure.
Est-ce que dans ce cheminement, l'idée de vocation avait pour vous un sens ?
Probablement. Le hasard de l'après-midi fait que cette masterclass a lieu après Christian Boltanski. Je crois que vous allez peut-être me parler de nain de jardin plus tard. C'est sûr que je suis un nain de jardin. Je veux dire, qui suis-je pour aller m'asseoir à la place de Christian Boltanski ? Donc notre vie, c'est d'être au service des artistes, c'est d'être des passeurs, c'est d'essayer de montrer des choses, c'est d'essayer d'apporter un peu de merveilleux, un peu de magie. Voilà. Je crois que c'est un métier qui a totalement changé en 40-50 ans. Aujourd'hui, je pense que les expositions sont devenues, le mot est peut-être là aussi ignominieux, mais des productions, sont des aventures collectives. On se lance pour essayer d'apporter un petit moment de magie. On le voit à la Fondation Louis Vuitton qui vont finir avec 1 200 000 visiteurs. Je crois qu'il y a une attente du public pour ce type de manifestation et notre pays est sans doute un des leaders dans ce domaine. Je le dis sans aucune forfanterie, mais je crois que depuis Toutankhamon, cette exposition qui a un petit peu révolutionné notre domaine, on a vraiment la chance de pouvoir avoir les moyens. Je le dis parce qu'en ce moment, à l'heure où on parle, il y a beaucoup de pays dans le monde où tout simplement on ne peut pas ouvrir les portes d'un musée. voire quand on les détruit pas.
Pour penser ces expositions, je me demandais si vous vous étiez donné des maîtres. Je pense non seulement à des contemporains, par exemple Alfred Pacman, dont vous avez été très proche, mais aussi des figures historiques, comme par exemple Harald Zeman, qui est finalement le premier commissaire d'exposition, au sens que l'on donne aujourd'hui à cette profession.
Oh, je crois qu'on est une communauté. On a toujours des personnes qu'on admire, qu'on apprécie. C'est sans doute pas le pays des bisounours, c'est sans doute pas les barbes à papa, c'est sans doute pas l'île aux enfants, c'est sans doute peut-être plus violent parfois qu'on ne l'imagine. Mais je veux dire, on reste quand même, comme je le disais, au service de l'art et des artistes. C'est vrai qu'Harald Zeman, je pense surtout à l'ouvrage qui a été fait il y a une petite dizaine d'années de ses collaborateurs, et notamment Tobias Bezzola, qui ont cherché à recenser, à faire le catalogue raisonné de ses expositions. Et je crois que là... Ça pose la question, qui n'est toujours pas tranchée dans notre pays, sur la notion de droit d'auteur du commissariat. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on produit une exposition, on a créé quelque chose d'un tout petit peu innovant intellectuellement, au point d'être défini comme une œuvre de l'esprit. Pour l'instant, la jurisprudence n'est pas tout à fait claire sur ce sujet, même si il y a eu des arrêts plutôt en cette faveur. Bon, je crois que c'est ça la question. Mais de là à se prendre pour des artistes et d'avoir des maîtres ou autres, je crois que le gap, ou l'écart, pardon, est énorme. Mais ça n'empêche que quand on regarde la carrière d'un Harald Zeman, pour celles et ceux de nos auditeurs et auditrices qui ne le connaîtraient pas, ce monstre qui a sacré, quoi, qui à l'âge de 20 ans a commencé sa première exposition et a enchaîné, mais dans une folie qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. On ne sait pas comment c'est possible, puisque malheureusement aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire des expositions, mais elles sont devenues beaucoup plus contraignantes. Toutes les règles, les transports, les assurances. Voilà, je me souviendrai toujours, j'ai eu la chance de faire une exposition sur Dada, et je discutais avec Pontus Sultan, le premier directeur des arts plastiques, c'était son titre à l'époque au Centre Pompidou, et il me racontait comment il avait fait son expo Dada dans les années 60. Il l'avait fait en 2 mois par voie postale. Il avait écrit aux artistes encore vivants du mouvement Dada, il y en avait encore, Anna Heusch et autres, il a dit « Est-ce qu'il vous reste des œuvres chez vous ?» Et ils avaient envoyé par la poste les œuvres, il avait ouvert les colis, il avait fait l'exposition, il avait tout renvoyé.
On va parler de la vôtre dans quelques minutes, pour voir si c'était pareil. Vous avez longtemps été le plus jeune à faire tout ce que vous avez fait, mais vous avez aussi...
Non, je suis le plus vieux. Non, je ne suis pas le plus vieux. On remarque dans notre pays, c'est vrai que notre métier a tendance à la longévité. Voilà, alors vous parliez de maître tout à l'heure, mais regardez, et on ne peut que s'en réjouir, hein, mais vous citiez Alfred Pacman, Suzanne Paget, Jean-Hubert Martin, enfin voilà, on est dans un domaine où, visiblement, ça porte chance. Hein. On part à la retraite, mais on ne travaille jamais autant que quand on est à la retraite. Donc pour nous, après, bon, bah, on attend, voilà, peut-être que parfois on a le temps de faire une petite expo, voilà, mais sinon on gère le papier toilette de nos institutions, et puis c'est aussi intéressant. Voilà.
J'allais dire aussi que vous aviez donné votre chance à beaucoup de jeunes commissaires d'exposition, François Pierre, Béatrice Gros, Guillaume Desanges, que vous avez invité à travailler avec vous, autour de vous, à faire des expositions. Vous enseignez aussi à Sciences Po. J'ai le sentiment que la transmission fait aussi partie de votre métier.
Oui, alors vous êtes bien aimable. Hein, j'espère qu'on est déjà à 10 minutes de masterclass. Donc bon, mais non, je crois que tout simplement, je crois qu'on ne peut pas concevoir nos métiers sans être effectivement dans cette logique d'enseignement, de diffusion. Je crois que si c'est pour être complètement bunkérisé, faire son truc dans son coin et ne pas partager, ça n'a pas de sens. De la même manière qu'une exposition, on parlait tout à l'heure du droit d'auteur, mais tout de suite je fais un rétro-pédalage en disant que clairement, toutes les grandes expositions, y compris celle d'Harald Zeman dont on citait tout à l'heure, pensons à sa grande Documenta de 72, c'est des œuvres collectives. Quand on regarde le générique, à l'époque, beaucoup de personnes qui sont devenues après des stars du domaine de l'art contemporain étaient présentes. Je crois que c'est vraiment ça qui peut être au cœur du sujet. Et c'est pour ça que cette masterclass cet après-midi est un peu une contradiction dans le sens, parce que je pense que ça ne s'enseigne pas. Voilà, je veux dire, il y a par exemple ce mot un peu étrange dans notre métier qu'on appelle l'accrochage. Voilà, l'accrochage, un peu ce mystère. Et ben, après avoir questionné nombreux amis et collègues et artistes, je ne sais toujours pas après 30 ans ce qu'est l'accrochage. Et je pense que tant mieux, parce qu'on est une cinquantaine cet après-midi et je suis sûr qu'on serait chacun à se poser la question, on aurait une notion différente de l'accrochage. Et c'est ça qui est intéressant, parce que on ne joue pas avec les œuvres, on ne les instrumentalise pas, mais il y a une phrase musicale à créer, il y a une histoire à raconter, et c'est ça qui rend passionnant ce métier.
Alors, poursuivons donc ces présentations. Laurent Lebon, en 2000, vous entrez au Centre Pompidou, où vous avez été commissaire d'un certain nombre d'expositions très remarquées. En 2001, Dada, dont la scénographie était une grille dans laquelle on pouvait se perdre et flâner. En 2002, Daniel Buren, le musée qui n'existait pas, avec Alison Gingeras et Bernard Blisten, qui embrassait non seulement tout le bâtiment du Centre Pompidou, mais presque toute la ville de Paris alentour. En 2006, on vous retrouve à Berlin, au Martin Gropiusbau, où vous avez fait peinture Malerail, une exposition dans laquelle les œuvres justement étaient accrochées par ordre alphabétique, qui vous a causé quelques...
La fin de ma carrière, ou presque.
Mais peut-être un autre début aussi. Et puis en 2009, de nouveau au Centre Pompidou, dans Vie d'une rétrospective, vous avez montré 9 œuvres radicales d'artistes des années 60.
Là, ils m'ont vraiment viré après.
9 salles vides.
Non, Vide, la dernière exposition que vous citez, c'est peut-être celle qui... pas amusé, parce que je pense qu'on était vraiment au cœur du sujet. Ça venait justement d'un dialogue avec un artiste, notamment John Armleder, et puis le critique Mathieu Copeland. Mais j'ai réussi à faire passer cette exposition dans la programmation du Centre Pompidou sur un seul point positif, c'est qu'elle n'allait rien coûter, puisque j'ai défendu l'idée, pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'exposition, de faire une rétrospective des expositions vides du XXe siècle. Donc, en partant de celle d'Yves Klein, on en a trouvé une petite quinzaine, et donc Yves Klein nous a quittés, mais les autres artistes étaient vivants, et on leur a demandé s'ils acceptaient qu'on rejoue dans l'espace du Centre Pompidou l'espace vide. Donc, a priori, sur le papier, rien de plus simple, on expose une salle vide, on met un cartel, et on dit que c'est l'exposition du moment. Mais j'avais oublié un petit détail, c'est qu'il allait se produire peu après le vernissage exactement ce qui s'était passé pour l'expo d'Yves Klein. Le public s'est mis à écrire sur les murs, ce qui est assez étrange. Donc ils ont commencé à prendre les murs comme des dadzibao. Voilà. Or, peut-être que peu de gens le savent, le Centre Pompidou utilise un blanc spécial pour repeindre ses murs. Les musées aiment bien créer un peu d'originalité. Alors évidemment, c'est un blanc dont chaque pot de peinture doit coûter 6 ou 7 fois le pot de peinture traditionnel. Et donc du coup, ce qui ne devait rien coûter a dû coûter 2 fois le prix d'une expo traditionnelle. Donc ils m'ont envoyé en Lorraine. Voilà, mais bon, j'y étais très bien. Voilà. Alors Dada, c'est un peu différent. J'allais dire, c'est ça arrive une fois dans une vie. Voilà, c'est des moments totalement inattendus. Et j'allais dire, c'était un peu Dada. Parce que Dada, au fond, n'a rien à faire au musée. Dada n'a rien à faire dans l'exposition. Et tout le monde me l'avait dit. Bon, je me suis battu pendant 4 ans pour essayer d'imposer Dada au Centre Pompidou. Pourquoi ? Parce que le Centre Pompidou est une grande maison surréaliste. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que c'est une maison empreinte de culture littéraire et qui adore le surréalisme. Regardez l'histoire des expositions du Centre Pompidou. Vous avez quasi tous les grands acteurs du surréalisme ont une monographie. Vous avez eu des grandes expos surréalistes. Vous avez eu la grande expo André Breton. Sur le mouvement Dada, rien. Et sur les acteurs Dada, peu non plus. Il a fallu attendre l'expo de Kurt Schwitters, de Serge Lemoine, de Diessemin, pour pouvoir avoir une première rétrospective d'un des grands acteurs du mouvement Dada. Et en plus, Schwitters était un petit peu différent du mouvement Dada. Je me suis battu. Et donc, à un moment, elle est passée dans la programmation. Et là, il s'est passé un phénomène très étrange. C'est exactement la même histoire que Dada à l'époque, il y a un siècle. Mon chef se rend aux États-Unis, va à Washington, à la National Gallery de Washington. Pour celles et ceux qui connaissent mal la National Gallery de Washington, c'est un petit peu le temple d'un certain classicisme muséal que, franchement, on n'associerait pas au mouvement Dada. Et puis, faisant le tour des bureaux, il dit bonjour à 2-3 collègues. Et puis, à un moment, l'une d'entre elles lui dit en ce moment, je travaille sur une expo Dada. Et donc, en fait, sans le savoir, des deux côtés de l'Atlantique, exactement comme quand Duchamp, Man Ray, Picabia faisaient du Dada à New York sans savoir que le mot avait été trouvé en Suisse en 1916, évidemment à une échelle plus modeste, on travaillait sur deux projets. Donc, on a associé nos forces pour faire une exposition ensemble. Bon, une des grandes collections Dada, c'est celle du MoMA de New York. Donc, comme toute exposition, on écrit notre petite demande de prêt au directeur du MoMA, co-signé de Washington et de Paris, et on demande, on était un peu ambitieux, 90 œuvres de mémoire. Alors on attend, ça prend toujours des mois. Puis au bout de 6 ou 7 mois, on reçoit une réponse du directeur du MoMA. J'ai le plaisir de vous annoncer que sur vos 90 œuvres, je peux vous en prêter une. Voilà. Bon, alors là, on s'est trouvé fort mari, parce qu'évidemment, bon, une exposition est faite d'échecs et puis de petites réussites. Mais là, ça vraiment touchait comme un missile en plein cœur l'exposition qui allait mourir. Et il s'est passé un phénomène jamais vu dans l'histoire des expositions aux États-Unis, c'est que pour une question de programmation, le MoMA a eu un trou et ne pouvaient plus programmer une exposition monographique. Et ils se sont retournés vers leurs collègues de Washington en mémoire à Alfred Barr, le grand directeur du MoMA qui avait fait des grandes expos Dada et le surréalisme, en leur disant, est-ce qu'ils accepteraient à Washington que le MoMA soit la deuxième étape d'une exposition? Alors, ça a l'air un petit peu maternel, ce que je raconte, c'est-à-dire que l'histoire de priorité, mais le MoMA n'aime pas être la deuxième étape d'une grande exposition. Ce qu'ils aiment, c'est produire l'exposition et qu'ensuite elle circule dans le monde, ce qui est tout à l'honneur du plus grand musée d'art moderne du monde. Et pour une des rares fois dans leur histoire, ils ont réussi ça. Et donc, il s'est passé un phénomène très étrange, c'est que un jour, le lundi, nous n'avions pas d'exposition, et une semaine plus tard, on avait 90 près du MoMA, et on a pu faire cette exposition de manière assez extraordinaire, ce qui fait que, bon, bah là, j'ai un peu chargé la barque. C'est-à-dire que je me suis lancé, et je crois que ce que je voulais, c'était un océan. Je voulais qu'on plonge dans un océan, et qu'il y ait cette grille, comme vous l'avez dit, qui fasse qu'on ne voit pas une exposition de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on rentre par un point A, et qu'on sorte par un point Z. C'était l'idée de l'échiquier, du damier, bien sûr, très dada. À tel point qu'il y avait une première salle, qui était l'entrée et la sortie. Et j'ai rencontré certains visiteurs qui n'ont vu que cette salle. Et quelques années après, ils m'ont dit « Mais Laurent, elle était bien, ton exposition, mais elle était un peu courte. » Et donc j'ai compris bien après qu'en fait, ils n'avaient vu que la première salle. Voilà, mais bon, ils étaient quand même contents, donc je trouvais que c'était un petit peu dada. Voilà.
Alors, c'est une question qui se pose souvent aux artistes invités dans cette masterclass de France Culture. Au fond, comment viennent les idées? Est-ce que la forme de cette exposition dada que vous venez d'évoquer vous est venue au moment où vous avez commencé à penser l'exposition ou au fil de ces péripéties et de ces retournements, de ces dialogues avec les différents musées, des prêts, etc.
Je crois que évidemment, il n'y a aucune règle en la matière, hein, c'est autant de...
Bien sûr.
Mais là, pour le coup, c'était vraiment la suite d'une histoire. Contrairement à ce que vous avez indiqué, Dada est venu juste après le musée qui n'existait pas.
Ah.
Et Daniel Buren avait proposé, si vous en souvenez, un système de cellules vides et pleines. La fin de l'exposition approchant, j'avais été le voir, je lui avais dit « Daniel, tiens, ça serait pas mal pour la dernière semaine de ton exposition de remplir les cellules vides qu'il avait peint dans un gris plutôt neutre d'œuvres du Musée national d'art moderne. Comme ça, le musée qui n'existait pas, c'était le titre qu'il avait choisi, deviendrait pour la dernière semaine de l'exposition le musée qui existe. » Pour diverses raisons, ça n'a pas été possible, mais j'ai gardé cette idée en tête de cet extraordinaire labyrinthe qu'il avait créé. Et quelques années plus tard, je suis allé le voir tout simplement, je lui ai dit « Sans vouloir te pomper, sans vouloir te copier, est-ce que tu autoriserais, est-ce qu'on utilise cette matrice, qui n'était peut-être pas le premier à avoir inventé, mais enfin en tout cas que je n'avais jamais vu sous la forme d'une exposition, de cellules ouvertes aux quatre coins qui communiquaient l'une avec l'autre, pour un autre projet, et il m'a donné l'autorisation. Donc en fait, les expositions se nourrissent l'une l'autre, et je crois qu'on essaie de raconter toute une petite histoire. Après, certains d'entre nous disent qu'au fond, on fait toujours la même exposition, et qu'on met toujours beaucoup de nous, bien sûr, on raconte son histoire, et puis on trouve quelques marottes qui finalement viennent dans l'histoire des expositions comme des retours. Et je pense par exemple aux expositions de Jean Clair. On pourrait tout à fait tracer une ligne de l'âme au corps à Mélancolie, montrer comment Mélancolie s'est nourrie de l'âme au corps, ou je pense à Carambolage de Jean-Hubert Martin, qui était comme une sorte de synthèse de toutes ces obsessions. Voilà, donc je crois qu'il y a comme ça, heureusement, des petits fils qui se nouent. Évidemment, c'est beaucoup plus facile pour une exposition thématique. L'exposition monographique est très différente.
Alors, venons-en à la question du contemporain, parce que justement, parmi vos obsessions, il y a ce dialogue permanent entre l'histoire et la création contemporaine, que l'on retrouve dans beaucoup de vos expositions. D'habitude, ce sont des artistes qui parlent dans ce fauteuil où vous êtes assis, dans cette masterclass de France Culture. Prenons l'exemple de l'exposition que vous avez faite avec Jeff Koons à Versailles en 2008. Racontez-nous un peu comment vous avez travaillé avec lui, comment on travaille avec un artiste. C'est évidemment très différent de la préparation d'une exposition historique.
C'est très différent. Là, je crois qu'on est vraiment dans le côté passeur. On est vraiment au service. Parfois, certains artistes acceptent le dialogue, acceptent l'échange, mais parfois aussi, on sert juste à planter des clous. Et c'est génial quand même, parce que regarder un artiste planter un clou, on lui tient le clou, finalement, il ne faut pas mettre les doigts trop près du marteau. Mais il y a ce côté précision qui est très différent. Dans l'affaire versaillaise, c'est une histoire qui pourrait occuper une masterclass entière, donc je ferai bref, et puis comme ça a failli aussi me coûter ma carrière, je m'arrêterai là. Mais je crois qu'il y avait tout simplement une idée, pour revenir aux sources du métier, qui était de montrer l'œuvre de Jeff Koons. Je crois que notre métier, c'est de montrer l'œuvre réelle. À l'heure de la folie numérique dont on ne peut que se réjouir, où tout est accessible en un clic, notre métier, c'est de revenir à l'original. C'est de revenir à ce moment tout simple où on met une énergie et malheureusement parfois un budget important pour amener l'œuvre d'art en réel. Et c'est pour ça que je suis très contrarié ces dernières années, mais on est obligé pour des raisons de sécurité, par toutes ces barrières qui sont mises. Quand je dis des barrières, c'est des barrières bien sûr conceptuelles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autocensure dans notre métier, mais c'est aussi des barrières matérielles, c'est-à-dire que vous avez des fils, vous avez des mises à distance, vous avez des trottoirs, vous avez des vitres, qui fait que l'accès à l'œuvre est devenu difficile. Prenons l'exemple peut-être le plus connu en France, qui est la Joconde. Pour des raisons évidentes, on l'a encore vu avec le tragique événement qui est arrivé récemment au Carrousel du Louvre, c'est une œuvre surprotégée. Mais quand on a la chance de pouvoir la voir sans le verre protecteur, sans faire un jeu de mots, c'est un verre vert, V-E-R-T. C'est-à-dire qu'en fait, il est épais pour pouvoir être protecteur. Et donc, du coup, finalement, on vient voir l'image presque de la Joconde, sans compter la distance qui fait qu'on ne peut s'en approcher. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un phénomène très important dans notre métier. On doit garder, sans vouloir en faire un culte des reliques, là encore, Jean-Claire s'est beaucoup exprimé là-dessus, mais je crois que ça doit rester le cœur de notre métier. Il faut se battre pour casser ses frontières, pour casser ses obstacles. Voilà. Alors, pour en revenir à Jeff Koons, j'avais tout simplement fait le constat qu'il était omniprésent médiatiquement, omniprésent dans votre belle revue, même si vous ne l'avez pas toujours défendu, mais à l'époque vous n'étiez pas chef, et ainsi de suite, parce que ça reste un artiste qui fait débat, mais il n'avait jamais été montré en France, sauf dans une galerie privée, celle de Jérôme de Noirmont, et une fois dans une expo de Jean-Louis Froment au CAPC. Et donc c'était important, finalement, de montrer ses œuvres réelles. Et après, l'histoire a fait que ça s'est passé à Versailles, avec la suite qu'on connaît. Mais quand on regarde le catalogue aujourd'hui, les gens sont un peu frappés. Il n'y avait que, de mémoire, 18 œuvres. Voilà, ça restait une exposition très concentrée. Et finalement, qui a fait le débat et que je... Je suis tout à fait à rouvrir cet après-midi, mais qui, je crois, avait du sens uniquement dans cette logique parce qu'on avait fait l'effort d'amener l'œuvre originale au contact du public.
Il me semblait que le dialogue avec le bâtiment était très étroit dans cette exposition.
Ça a été le principe. Ça a été le principe. C'était de lui montrer. J'ai voulu une expo qui n'amène pas de tickets supplémentaires, de prix supplémentaires au tarif d'entrée. Et donc, l'unique manière de faire ça, c'était de le faire dans le parcours des grands appartements. Et dans le parcours des grands appartements, il était strictement impossible d'accrocher au mur. Donc tout de suite est arrivée la conclusion de montrer des œuvres plutôt en trois dimensions, plutôt au centre des salles, même s'il y a eu quelques exceptions, et de raconter une histoire avec Jeff. Et donc il y avait soit des moments un peu évidents, genre The Rabbit, qui était dans l'ancien cabinet de curiosité de Louis XIV, et quand on regarde le plafond peint, on voit qu'il y a des éléments qui peuvent rentrer tout à fait en connexion formelle avec ce Rabbit. D'autres moments, comme la Galerie des Glaces, qui se terminait avec la grande sculpture en miroir de Moon, qui collait évidemment bien avec le concept. Et d'autres moments, peut-être plus en disharmonie, plus en opposition, qui aussi, je crois, faisait partie de cette phrase musicale qu'on essayait de construire ensemble.
On évoquait les différentes positions du commissaire d'exposition. Je crois que vous vous défendez absolument de la position de coach d'artiste. On a évoqué tout à l'heure l'idée d'auteur, de passeur. Est-ce que pour vous, le commissariat d'exposition est une forme d'écriture, à proprement parler ?
C'est au cœur de la dialectique. Mais évidemment, c'est Jean-Max Collard qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur le rapport entre l'écrit et l'exposition. J'espère qu'un jour, il pourra publier dessus. En même temps, il y a cette phrase un peu qu'on sort souvent dans notre métier, où on dit finalement, il peut y avoir de bonnes expositions et de mauvais catalogues, et de très bons catalogues et de très mauvaises expositions. Voilà. Ou cette phrase, on dit, ah bah oui, là, cette exposition, elle était vraiment ratée, on aurait mieux fait d'en faire qu'un catalogue. Voilà, une sorte de dialectique qui va encore être nourrie dans les années à venir, puisqu'on est évidemment avec cette révolution du numérique, et on le voit tristement avec la chute des ventes de livres d'art, sauf dans de très rares cas, les grandes expositions à succès. Et donc là, il va falloir encore trouver d'autres manières de réinventer le modèle, et ça va être passionnant.
Finalement, vous parliez des catalogues d'expositions auxquels vous apportez toujours beaucoup de soins. Pour l'exposition d'Ada, en plus du catalogue, vous aviez même fait paraître un livre d'images qui paraît un peu plus tard. Parmi ces interstices autour de l'exposition, il y a les cartons d'invitation aussi au vernissage auxquels vous apportez beaucoup de soins. On vous retrouve souvent dans ces interstices.
Oh, c'est... Ce sont des petits détails, probablement, pour nos auditeurs, mais pour moi, c'est vraiment l'idée que l'exposition est un tout.
Le catalogue, c'est pas un détail.
Et que si on en a les moyens, il faut essayer d'être attentif à tout. On n'y arrive jamais, mais je crois que le public attend qu'on lui raconte une histoire. Alors, le carton papier, ça, c'est un vrai débat. J'en discutais avec quelques-uns de mes collègues, et là, je souffre beaucoup pour une exposition dont on va peut-être parler, qui ouvre dans quelques jours, où on est, comme maintenant beaucoup, pour des raisons notamment de développement durable, dans la dématérialisation du carton, donc c'est le carton informatique, et ça fait 15 jours, je ne passe que mes jours et nuits à essayer de récupérer toutes les bévues, des invitations qui sont parties dans les spams, les pare-feux, et ceux qui n'ont pas eu la bonne adresse, ça, aucun intérêt, mais quand vous êtes battu pendant 2 ans pour obtenir un prêt et que le prêteur ne reçoit pas son précieux sésame, je peux vous assurer que vous pouvez toujours revenir après, vous n'aurez plus jamais voix au chapitre. Donc c'est toute une histoire qu'on raconte. Bon, celle qui évidemment me tient le plus à cœur, parce que c'est peut-être un ouvrage qui aujourd'hui a peut-être été en contrepoint harmonieux avec l'exposition, c'était Dada. Au fond, il y avait cette grille et je cherchais quel est l'ouvrage, voilà. Et vous me demandiez d'où viennent les idées. Voilà, c'était la fin de l'année, je crois au début de l'année, je ne sais plus à quel moment on distribue, vous savez, ces piles d'annuaires à l'époque, à l'entrée des immeubles. Et je voyais ces piles d'annuaires, liberté, puisque en fait, on prend gratuitement. Et l'annuaire, le dictionnaire, c'est tout à fait dada, le classement, la folie comme ça, de vouloir élaborer des listes. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça. Il faut faire un annuaire dada, mais un annuaire certes dans le fond, mais aussi dans la forme. Et donc j'étais allé voir les pages jaunes, qui étaient très florissantes à l'époque, et qui étaient en fait, il y a de ça 15 ans, le plus grand éditeur français, puisque chaque annuaire était édité à plusieurs millions d'exemplaires, et ils ont d'ailleurs une imprimerie, j'avais découvert ça à l'époque, qui fonctionne à l'année, c'est-à-dire que à peine l'annuaire d'une année est fini, qui commençait l'autre. Et donc je suis allé voir mes chefs, je leur ai dit j'ai une idée, on va faire un annuaire dada et il va être distribué de manière gratuite. C'est-à-dire qu'on va faire un immense mur de catalogue dada et sous le contrôle d'un agent, on pourra prendre son catalogue et partir avec. Bon, on m'a dit, bon Laurent, encore une de tes conneries, voilà, on va perdre beaucoup d'argent, on ne le fait pas. Bon, donc on ne l'a pas fait. Mais on a fait l'annuaire sous forme payante. Je le regrette beaucoup parce que j'avais obtenu le mécénat pour le faire gratuitement à l'époque. Mais j'ai réussi à garder l'idée de pouvoir faire quand même la forme annuaire. Et ça a l'air bête, mais le papier de l'annuaire est un papier très spécifique, comme souvent dans l'édition, on croit que... Et tout le monde avait dit, évidemment, que ça n'intéresserait personne parce que les gens étaient soucieux d'avoir le coffee table book avec le papier plutôt d'une qualité supérieure. Et voilà, et je le révèle aujourd'hui, 10 ans après, j'ai utilisé le papier de 20 minutes, le gratuit, ce qui me semblait assez dada, et qu'on m'avait dit être périmé au bout de quelques semaines, et si quelques-uns d'entre vous ont encore un exemplaire du catalogue dada, vous verrez qu'en fait, il tient très très bien, et qu'il est beaucoup plus résistant que d'autres papiers, qu'on le dit beaucoup moins résistant, voilà. Donc c'est ma petite contribution, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette aventure, c'est la légèreté de l'ouvrage, alors qu'il y avait une folie de 2500 ou 3000 images, voilà, bon, on fait ça une fois dans une vie, mais c'était amusant de le faire.
Voilà. Vous parliez du public à l'instant. Finalement, le public, à quel moment de la préparation de l'exposition pensez-vous à lui ? Est-ce que c'est dès le départ ? Est-ce que c'est une fois que l'exposition est conçue ?
C'est toujours une dialectique. Je vais dire un mot grossier, peut-être pour certains dans le public. Je suis fonctionnaire, voilà, par les temps qui courent. Bon, mais voilà, j'ai choisi aussi de l'être. Et je crois que quand on choisit de l'être, et ce n'est pas une formule un peu rapide, évidemment, on doit avoir le public au cœur de nos... Voilà. Et je ne le dis pas de nos priorités. Je ne le dis pas par forfanterie ou par formule un peu rapide pour une masterclass de France Culture. Voilà. Je pense que c'est ça qui vraiment nous distingue du privé. Je veux dire, ce n'est pas notre argent, ce ne sont pas nos œuvres. Et donc, on doit faire attention. En même temps, si on n'essaie pas de titiller... d'instiller la curiosité, de susciter l'enthousiasme, je pense qu'on perd aussi un petit peu. Donc c'est cette espèce de contrepoint en permanence, mais je crois qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit. Voilà, c'est des métiers du bonheur, c'est des métiers du plaisir, mais c'est pas des métiers où il faut galvauder l'aspect pédagogique central quand on sait ce qu'est l'enseignement de l'histoire de l'art. ça s'est amélioré, mais il y a encore beaucoup à faire dans l'éducation nationale. Je crois qu'on a là-dessus un défi, bien sûr, à relever.
Nous arrivons maintenant à une étape essentielle de votre parcours, Laurent Lebon. En 2010, vous inaugurez le centre Pompidou-Metz, dont vous avez accompagné la naissance et dont vous avez été le premier directeur. Comme vous l'avez dit quelquefois, ce lieu est une chimère, puisqu'il est à la fois un musée parce qu'il emprunte des œuvres au centre Pompidou, et en même temps une Kunsthalle parce qu'il accueille des expositions. Pourquoi ce modèle a-t-il été choisi ?
Je crois que c'est au cœur de nos questions d'aujourd'hui sur le musée. Je crois qu'aujourd'hui, la distinction entre collection permanente et exposition temporaire est en train d'être brisée. Alors, en disant ça, j'ai bien conscience que c'est pas simple et d'un revers de la main, mais on peut tout à fait ne pas s'en contenter, ne pas s'en réjouir, mais le public ne va pas voir les collections permanentes. Tout le monde a fait cette expérience. Vous avez une collection permanente extraordinaire. Il n'y a strictement personne. Vous prélevez une vingtaine de chefs-d'œuvre de ces collections permanentes, vous le mettez dans l'espace d'exposition temporaire, vous rajoutez 80 impressionnistes et vous appelez ça chef-d'œuvre de l'égyptologie de l'impressionnisme revu par Claude Monet, et vous avez un nombre de visiteurs un peu plus important. Voilà, c'est la vie, c'est l'actualité, c'est normal. Donc voilà, et donc partant de là, je suis un enfant du Centre Pompidou, et le Centre Pompidou en 77 a pris comme parti cette caractéristique, et j'aime citer le mot de Francis Ponge qu'il avait utilisé pour l'inauguration du Centre Pompidou en 77, il a parlé de mouvement. Qu'est-ce qu'il entendait par là ? C'était la contraction du mot monument et du mot mouvement. C'est un peu nos deux piliers de notre métier, et je crois que au Centre Pompidou, du fait que leur champ d'action concernait le contemporain, ils ne pouvaient pas être dans le moment figé. On parlera tout à l'heure du musée Picasso peut-être, c'est pareil, je veux dire, on ne peut pas avoir une vision figée du musée monographique, sinon vous le transformez en mausolée, en tombeau. 1985, le musée Picasso ouvre 1 million de visiteurs. 3 ans plus tard, 500 000. Donc très vite, le public se lasse, à tort ou à raison, mais le public souhaite ce dynamisme. Donc le Centre Pompidou-Metz, au fond, c'est cette dialectique, cette tentative de bien sûr renouveler en permanence l'offre, mais bien sûr en se reposant sur la monstration des collections. Alors évidemment avec beaucoup de dangers, parce que c'est un énorme barnum à chaque fois pour évidemment changer les espaces, car on a beau essayer depuis 50 ans de faire des espaces flexibles, on les a mis à toutes les sauces, les espaces flexibles, mais malheureusement c'est jamais flexible. Voilà, on a beau essayer, ça ne marche pas, les cimaises amovibles, les scénographies réutilisables, je vais un peu vite en besogne, hein, mais c'est beaucoup plus facile dans le concept que dans la réalisation.
Chef-d'œuvre, vous prononciez le mot à l'instant, Laurent Lebon. Chef-d'œuvre au pluriel et avec un point d'interrogation, c'était le titre de votre exposition inaugurale du Centre Pompidou-Metz. Quel était le message que vous vouliez faire passer avec cette exposition ?
C'était un petit peu ironique par rapport justement à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'égyptologie et Claude Monet, mais le Centre Pompidou-Metz, c'est comme Dada, ça arrive une fois dans une vie. Parfois, quand je discute avec certains de mes collègues, on a la chance, comme je le disais tout à l'heure, de faire ce métier, mais on n'a pas toujours la chance de participer à une aventure de construction. Quand on est arrivé à Metz au début des années 2000, c'était un champ de boue, c'était un terrain de boue. On a eu la chance d'avoir Madame Pompidou pour une de ses dernières sorties. Elle est venue poser la première pierre et il a fallu partir dans cette aventure. Et ça, je crois que ça reste un petit peu magique. Voilà, donc le bâtiment sort. Bon, certains ont apprécié l'architecture, d'autres moins, mais très vite en ville, les gens ont été un peu fascinés par cette toiture extraordinaire, notamment, et ont parlé de chef-d'œuvre. Mais très vite venait le contrepoint en disant « Oui, mais les chefs-d'œuvre à l'intérieur vont rester à Paris ». Il y avait encore cette tension. On a beau dire que depuis 30 ans, la décentralisation a révolutionné toute notre offre culturelle. Je pense que c'était peut-être un peu plus compliqué que ça. Donc là, il y avait cette attente. Et donc, à force, on ne trouvait pas de sujet. Et un jour, on a réuni l'équipe et j'ai dit, mais finalement, c'est là. Ne nous prenons pas la tête. C'est chef-d'œuvre, la notion centrale qu'il faut questionner. Pourquoi fallait-il la questionner ? On parlait tout à l'heure de Dada. C'est parce que tout le XXe siècle est le questionnement de la notion de chef-d'œuvre qui n'a sans doute plus le sens qu'il avait au XVIIIe siècle lorsqu'on parlait d'un morceau de réception pour l'Académie, d'où le point d'interrogation, d'où la diversité. Voilà. Et donc, du coup, on a essayé de rentrer dans cette histoire pour questionner cette notion essentielle de l'histoire de l'art. Et bon, ça a donné un peu cette folie sur 6000 mètres carrés et un rassemblement un peu inédit d'œuvres partant du 18e siècle. On est même parti d'un peu d'avant. Je suis parti de Georges de la Tour parce qu'évidemment, il fallait un petit ancrage local, le Lorrain de l'étape. Mais pourquoi ? Parce que Georges de la Tour aussi a été redécouvert récemment. Et donc, pour moi, c'était aussi une manière de questionner l'histoire de l'art au 20e siècle jusqu'au musée imaginaire de Malraux et aujourd'hui, quelle est la notion de la virtuosité et autres du chef-d'œuvre.
Dans cette masterclass de France Culture, Laurent Lebon, nous nous interrogeons sur les étapes de fabrication d'une œuvre aujourd'hui, par exemple, de la fabrication d'un musée. Alors, une fois le Centre Pompidou-Metz ouvert, enfin un peu avant même, il fallait en concevoir la programmation. Au fond, comment fabrique-t-on la programmation d'un lieu comme celui-ci ?
Comme on le disait en introduction, le monde des expositions a suivi une révolution incroyable en 50 ans. Il y a 50 ans, une exposition pouvait durer, quand on regarde les durées d'exposition, notamment dans l'entre-deux-guerres ou juste après la guerre, l'exposition pouvait durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Des catalogues étaient très fins et ça devait être très bien. Ça créait un rythme tout à fait... Bon, petit à petit, tout ça s'est structuré, a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, produire une exposition, c'est comme produire un film, c'est comme produire un opéra. C'est une telle aventure collective et c'est tellement de moyens mis en œuvre. Et quand je dis ça, je ne fais pas de hiérarchie entre la grande exposition du Grand Palais et la petite exposition du musée en région. Bon, c'est toujours la même énergie. On met toujours autant de temps. Alors après, il peut y avoir plus ou moins de moyens budgétaires et plus ou moins d'œuvres et ainsi de suite. Mais ça demande la même initiative, ce qui fait qu'aujourd'hui, on programme à 2 ou 3 ans. Ce qui fait que on est certain d'ailleurs à se poser la question. Vous savez que notre durée de mandat a changé et que pour beaucoup, elle a été réduite à 3 ans. Et au fond, quand vous êtes nommé pour 3 ans, soit vous détruisez un peu, ce qui n'arrive jamais quand on est nommé à un poste, parce qu'on respecte toujours ce qu'a fait le prédécesseur, mais parfois certains d'entre nous ont d'autres idées, bah, vous êtes obligé de respecter ce qui a été fait avant et donc de vous projeter déjà à 2020, 2021, 2022. Si on prend l'exemple de Picasso, dont on parlera peut-être tout à l'heure, les chefs-d'œuvre sont tellement sollicités dans le monde entier que si on ne s'y prend pas 2 ou 3 ou 4 ans avant, on n'a aucune chance de les avoir.
Mais est-ce que la programmation se conçoit par effet d'harmonie, de rupture, de contraste, en rapport avec l'actualité ? Il y a par exemple l'exemple de 1917 qui n'a pas eu lieu, dont on aurait pu imaginer qu'elle aurait lieu en 2017. Ça n'a pas été le cas, je crois, pour une question de prêt.
Bah, 1917,
il y a des contingences qui se mélangent
avec 1917, c'était une exposition du Centre Pompidou-Metz hein, qui a eu lieu en 2012, de mémoire. Donc 5 ans avant 2017, le centenaire, c'est parti d'une question simple, c'est que on avait créé au Centre Pompidou-Metz un espace qui permette de réexposer le plus grand Picasso du monde, le rideau de Seine de Parade, qu'on ne peut plus montrer dans le forum du Centre Pompidou parce qu'il a été réduit dans ses proportions lors de la réouverture du Centre Pompidou Paris en 2000. Et donc, on n'avait pas fait cette salle uniquement pour cela, la grande nef du Centre Pompidou-Metz, mais c'était une idée. Donc, on pouvait faire une exposition Picasso de plus, mais très vite nous est venue l'idée dans l'équipe qu'on pourrait peut-être faire plutôt une sorte de coupe stratigraphique, une espèce de plongée archéologique dans une année d'histoire et d'histoire de l'art pour essayer de dire la multiplicité de la création en temps de guerre. Et donc du coup, d'où est venue cette idée ? Et on s'est dit très vite, le même raisonnement que je viens de faire à l'instant par rapport à Picasso, que si on faisait cette exposition en 2017, il y aurait tellement de projets autour de l'année 1917 qu'on pourrait avoir aucun prêt. Donc du coup, on l'a un peu contre-programmé. C'est aussi une partie de notre métier. Et on a eu du coup beaucoup plus de chance dans les prêts. Et on a pu créer cette aventure un peu inédite où les objets d'art des tranchées dialoguaient avec la fontaine de Duchamp puisqu'elle date de 1917 et ainsi de suite et ainsi de suite.
2014, nouvelle étape dans votre carrière. Vous êtes nommé président de l'établissement public du Musée National Picasso Paris. Et l'un de vos premiers gestes a été de faire préciser le nom de cet établissement que je viens de prononcer.
C'était reprendre le décret parce qu'en fait, il n'avait plus vraiment de nom et je lui ai redonné son nom en fait. Musée National Picasso Paris, qui est un nom pas forcément facilement prononçable. Mais pourquoi ? J'insistais sur 2 choses. National. Alors, rien à voir avec quelques réalités politiques du moment, mais c'est qu'on est un musée national au sens pas parisien, justement. C'est-à-dire que c'est une collection pour tous, et je crois qu'il faut le rappeler, c'est le principe de cette définition d'un établissement public, en tout cas muséal. Et Paris, parce qu'il y a d'autres musées Picasso, et que donc il fallait nous distinguer pour mieux comprendre notre identité. Voilà, donc ça m'a apporté... Bon. le principal geste que j'ai eu à faire lorsqu'on j'ai été nommé, c'était tout simplement d'ouvrir le musée, puisqu'on était dans une phase de fin de chantier. Et donc, là encore, le hasard de la vie, mais vous l'avez peut-être vu à l'époque dans la presse, j'ai été qualifié d'imposteur. Depuis maintenant, ça fait 2 ans que je suis en poste, je suis à la page 8 de Wikipédia. Donc, je me suis un peu amélioré sur l'œuvre et la vie de Picasso. Je suis arrivé au cubisme. À l'époque, je débutais. Donc, j'ai découvert que Picasso était né un 25 octobre. Et donc, je me suis dit, mais c'est parfait, ouvrons le musée Picasso un 25 octobre. Bon, ce que je n'avais pas découvert à l'époque, c'est que ça allait tomber plein au milieu de la FIAC, et le même jour que la Fondation Louis Vuitton, ce qui m'a valu à l'époque quelques désagréments, mais du coup on a fait de cette contrainte un petit moment, et pour celles et ceux qui se souviennent de ce moment de 2014, je crois que ça a été une semaine un peu fantastique à
avec
Paris.
Avec la monnaie de Paris.
Voilà, c'était je crois, et depuis d'ailleurs ce moment, il y a un petit moment en octobre comme ça chaque année, touchons du bois et qu'il n'y ait pas d'événements tragiques qui viennent contrecarrer ça, mais je crois qu'il y a un peu une semaine fantastique maintenant chaque année à Paris, où je crois que, en toute prétention, on peut dire qu'il n'y a pas d'autre ville dans le monde qui offre une telle offre culturelle dans le domaine des expositions de tout type. Et on peut que s'en réjouir.
Passer du bâtiment flambant neuf de chez Guérouban à un monument historique doté d'une collection, et quelle collection, qui plus est une collection monographique, ça a dû être un grand changement.
C'est l'antithèse, c'est ça qui est génial. Je veux dire, d'un côté, on avait un bâtiment où on avait pu tout créer, depuis la prise électrique jusqu'au papier toilette. Enfin, les gens ont fini par en prendre pour un grand obsédé. Au musée Picasso, tout était là. Il fallait mettre en musique, il fallait mettre en harmonie. Donc on s'est lancé. Il y a quelques contraintes. Hein. C'est un bâtiment superbe, mais avec beaucoup de difficultés liées au fait que c'est un monument historique. Pour celles et ceux qui ont peut-être eu la chance de le voir depuis notre réouverture de 2014, je crois que c'est un bâtiment qui plaît parce qu'il y a ce côté intimiste, ce côté hospitalité. Je parlais tout à l'heure un petit peu d'hospitalité. Je reviens beaucoup à l'aventure d'Orhan Pamuk, qui a créé ce musée de l'innocence suite à son ouvrage à Istanbul. Et il a fait un manifeste et il parle beaucoup, justement, je caricature ses propos, qui sont bien sûr écrits dans une langue bien plus riche, mais de musée intimiste, de musée de l'hospitalité, de musée où, finalement, on aime les grandes maisons, on aime nos Centre Pompidou, nos Tate et nos MoMA, mais je crois qu'il y a une attente aujourd'hui du public pour avoir peut-être une vue un petit peu différente, peut-être moins d'espace, mais peut-être tout simplement l'envie, pour employer une formule un peu galvaudée, mais qui m'est chère, on a envie simplement d'entendre une histoire. Et donc je crois que là, avec l'hôtel Salé, on a un magnifique bâtiment et une collection extraordinaire, et donc du coup la dialectique peut se mettre en marche.
Comment on invente encore aujourd'hui de nouvelles expositions sur Picasso ?
Je crois qu'on n'invente pas de nouvelles expositions. On parlait tout à l'heure de Jack Lang et de l'Allemagne. Je crois que dans le domaine de l'art, Picasso, c'est pas mal non plus. Hein. C'est plus fort que nous. Donc je crois qu'il suffit d'ouvrir un rail dans les réserves, il suffit d'ouvrir un tiroir et c'est tellement magique, c'est ça qui est beau dans nos métiers, qu'il y a autant d'idées qui viennent. Alors, et je le disais tout à l'heure, les chapitres se suivent, et peut-être parfois. Donc, 1917 avait été un petit succès à Metz, et donc, du coup, ça m'a donné l'idée d'essayer de le tenter pour un artiste. Alors, évidemment, Vermeer, avec 40 tableaux, c'est un petit peu compliqué de faire Vermeer sur une année, même ça serait amusant à faire, mais enfin bon. Là, avec Picasso qui a créé, il n'y a pas de catalogue raisonné, mais on estime 70 000 œuvres, c'est plus facile de choisir une année. Donc, on va s'y lancer à la fin de l'année. J'invite tous nos auditeurs et auditrices à venir voir. On va faire Picasso 1932. On va raconter l'œuvre de Picasso du 1er janvier au 31 décembre d'une année. Alors, vous allez me dire, pourquoi 1932 ? En fait, c'est parce que c'est une année un peu clé dans sa vie. C'est une année où il se retourne vers son passé. Étrangement, il a 51 ans et il fait sa première exposition rétrospective. C'est lui-même qui l'accroche. Et il a l'idée extraordinaire d'être un des premiers artistes vivants à créer son propre catalogue raisonné. Sortira en 1932 avec Zervos le premier volume de ce catalogue raisonné qui ne sera jamais achevé, puisqu'il y a beaucoup d'œuvres qui n'ont pas pu être cataloguées par la profusion extraordinaire. Mais donc du coup, ça va nous permettre dans l'expo, en plus de montrer des œuvres plus anciennes, puisqu'on va essayer aussi d'évoquer ces deux moments, le catalogue raisonné et l'exposition rétrospective. Voilà, donc ça, c'est pas une idée très originale, mais étrangement, j'ai l'impression que ça n'a jamais été fait.
Vous parliez à l'instant de la collection, des réserves, des rails qu'on tire. Au fond, c'est là que vous pouvez vraiment mettre en œuvre votre métier de conservateur du patrimoine avec cette collection.
Le métier de conservateur du patrimoine dans ce domaine, c'est tout simplement de penser à nos enfants et nos petits-enfants. Je le dis de manière un peu rapide, mais sans doute pas suffisamment par rapport à l'importance de la mission. On a le devoir, tout simplement, que tout cela se transmette. Donc ça porte un nom parfois un peu sauvage de conservation préventive ou autre, mais je crois que c'est l'importance. Mais je fais partie d'une génération, ou en tout cas j'appartiens avec certains de mes collègues, à une caste, j'allais dire, qui est à l'antithèse de cette volonté d'une conservation trop stricte. C'est-à-dire que moi j'aime bien faire diffuser les œuvres. Voilà. Donc pour moi, quitte à choquer peut-être certains, je trouve que la collection, elle a besoin de vivre aussi. Parce que d'abord, c'est en sortant les œuvres des réserves qu'on apprend à les voir, qu'on apprend à mieux les comprendre, qu'on découvre ses qualités. Voilà. Mais après, il faut faire attention. Tout le monde connaît les règles de conservation, parfois strictes, parfois trop strictes sans doute, mais je crois qu'elles sont essentielles pour pouvoir préserver, notamment dans le domaine des arts graphiques et de la photographie. Mais comme vous le savez aujourd'hui, la règle dite internationale par rapport à un dessin, c'est d'exposer 3 mois un dessin à 50 lux et de le mettre en réserve pour 3 ans. Donc évidemment, c'est très difficile quand ce sont des grands chefs-d'œuvre. On est obligé de les maintenir à l'abri de la lumière, voilà, et donc évidemment à l'abri du regard du public.
Puisque nous nous acheminons à présent vers la fin de votre masterclass de France Culture, Laurent Lebon, je vous propose d'évoquer 2 projets en cours. Diorama et Jardin, que vous êtes en train de préparer, Diorama au Palais de Tokyo et Jardin au Grand Palais. Mais avant cela, je voulais faire un petit détour par des projets Nuit Blanche que vous avez réalisés. En 2004, vous avez initié Versailles Off, la Nuit Blanche dans le domaine de Versailles. Et en 2012, vous avez été commissaire de la Nuit Blanche. La question de l'espace public vous occupe depuis longtemps. En 2001, si ma mémoire est bonne, vous faisiez cette exposition des nains des sculptures, qui était une exposition pleine d'amour aussi peut-être, sur les nains de jardin depuis l'Égypte ancienne. Comment travaille-t-on dans l'espace public quand on est commissaire de la Nuit Blanche ?
Rien à voir entre la nanologie et la nuit blanche. Hein. La nanologie, je suis un des rares historiens d'art nanologue, mais on est quelques collègues. Hein. Bon, alors elle a beaucoup perdu de sa force, hein, mais alors effectivement, vous parliez d'amour. Un des grands défis de la nanologie, c'est la nanogénèse, c'est-à-dire la science de la naissance du nain de jardin, parce qu'il y a beaucoup de nains de jardin et très peu de naines de jardin. Voilà, donc du coup, la reproduction est complexe, mais je sais qu'il y a beaucoup d'iconographes dans la salle ou d'iconologues, et donc je les invite à regarder attentivement le bonnet du nain qui peut donner quelques clés conceptuelles pour mieux comprendre le mystère de la création nanologique. La Nuit Blanche, c'était très différent à Versailles, bien sûr, d'à Paris. J'allais dire, c'est quelque chose de fou, mais je crois qu'il faut le faire qu'une fois. Voilà. Pour moi, c'est. Je dis pas qu'on fait des métiers, comme je le disais, passionnants, sans doute un peu stressants, mais beaucoup moins que beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que c'est 1 an de travail, voire 2, pour une nuit. Donc évidemment, avec mon bol habituel, moi, pour la Nuit Blanche, à 19h00, quand la Nuit Blanche a commencé, il y a eu le plus grand orage qu'il y a jamais eu sur Paris, et ça s'est arrêté à 23h. Voilà, c'est une nuit pluvieuse. C'est quand même un gros stress. Parce que, ça oscille entre 500 000 et 1 million de visiteurs. Je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, et ce n'est pas le fond de l'affaire. Mais c'est énormément de monde dans les rues. Et donc, finalement, il y a un moment où la question de la sécurité, et à l'époque, on n'avait pas encore les grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, qui rendent encore plus, évidemment, et à juste titre, les conditions de sécurité sont encore renforcées. Donc je crois que c'est très difficile, et surtout, il y a l'antithèse, c'est-à-dire aussi la visibilité, la lisibilité, c'est-à-dire que c'est bien beau de produire des œuvres, mais si personne ne peut les voir, je pense notamment tout simplement à ce qui est au cœur de notre métier parfois, c'est la gestion de la queue, aucun rapport avec les nains de jardin, c'est la clé. Aujourd'hui, on essaye de nous former à tous les risques, et notamment les risques terroristes, on sait bien que c'est la queue qui est un moment clé, évidemment, de tout ce processus, et qu'il faut faire très attention à préserver et à essayer de les limiter au maximum. Donc du coup, je crois que dans Nuit Blanche, il y a cette tentative de lisibilité, de fluidité. Et donc j'avais proposé tout simplement de suivre la scène et, dans une logique de développement durable, d'utiliser ce qui était là. Et donc je crois que je pense avoir été le seul à l'avoir fait pour l'instant, c'est j'avais ouvert ces belvédères le long de la Seine qui étaient en fait là pour dire que tout simplement bah on pourra produire les plus belles œuvres d'art contemporain du monde. Finalement, la plus belle œuvre d'art contemporain, c'est Paris. Et on a ces architectures que plus personne ne regarde, comme Jussieu, comme Morland et autres. Essayons pour un soir de monter et de regarder la ville depuis ces belvédères. Alors, ça a eu un certain succès, trop d'ailleurs, parce qu'il y a des gens que. Mais voilà, c'est.
Vous aviez fait aussi un parcours invisible.
Oui, aussi. Bon, je crois que c'était intéressant d'un petit côté un peu caché. Voilà.
Finalement, dans cette nuit blanche, il y a un côté exploit, un côté presque surhumain.
Non, il ne faut pas en faire ce que ça n'est pas.
Il y a un côté quelque chose d'impossible.
Oui, il y a un côté impossible. Ça, enfin, si on revient à votre question originelle, qu'est-ce qui nous motive ? Moi, en tout cas, je n'ai pas raconté l'histoire des directeurs des musées Picasso, mais je la raconte assez vite. Le premier est mort dans d'atroces souffrances. La deuxième était une femme. J'ai dû la sortir des mémoires archivistiques parce que tout le monde l'avait oubliée alors que c'était une des premières femmes directrices des musées. Le troisième a convoqué son équipe pour sa nomination et a dit « J'ai un problème, le musée que je déteste le plus au monde, c'est le musée Picasso. » Le quatrième a fait de même et a dit « Moi, mon problème, c'est que l'artiste que je déteste le plus au monde, c'est Picasso. » La cinquième, à nouveau, une femme a été révoquée de ses fonctions par le président de la République. Donc, je suis le sixième directeur du musée. Donc, je suis content de faire ma dernière masterclass avec vous ce soir. Voilà. Et donc, c'est quand même un exploit, effectivement. Là, il y a danger. Voilà. Mais en tout cas, quand on manie le denier public, on sait avec quelle vigilance on doit le faire. Je crois que, pour moi, ça m'intéresse de faire une exposition que si ça porte un tout petit peu. Si c'est un nouveau chapitre. Si c'est quelque chose d'un petit peu inédit. C'est ça qui me motive. Et effectivement, l'idée de l'exposition impossible, c'est pas un défi. Mais vous parliez des dioramas et des jardins. Qu'est-ce qui les réunit? C'est que le jardin est un monument vivant qu'on ne peut pas exposer au musée par définition ou très difficilement. Le diorama, cette harmonie entre un fond peint, des éléments en trois dimensions qui a été fait pour un lieu, je pense notamment au grand hall des dioramas du musée d'histoire naturelle de New York, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déplacer facilement. Et donc ça m'a intéressé justement de questionner au fond ce qu'est le musée, l'exposition à travers ces deux modes. Et c'est ça qui rend fascinant l'affaire.
Est-ce que diorama, c'est une exposition d'exposition?
En tout cas, c'est une exposition qui questionne l'exposition. J'invite les auditeurs et les auditrices à le découvrir au Palais de Tokyo donc cet été. C'est une exposition, au fond, qui est sans message, hein. En tout cas pas de message politique, mais qui interroge le visiteur pour dire, finalement, n'est-on pas dans un grand diorama? Voilà. Au fond, l'exposition montre au début des dioramas. On part d'ailleurs de Daguerre au XIXe siècle, qui est l'inventeur du daguerréotype, mais aussi du diorama, c'est moins connu. Et on bascule comme ça. Ça va être une des premières expositions historiques au Palais de Tokyo. J'ai fait reclimatiser une salle. Ce n'était pas arrivé depuis 30 ans. Donc on peut exposer des œuvres un peu plus fragiles. Et donc on va pouvoir avoir comme ça une petite histoire et montrer comment des dizaines d'artistes contemporains s'intéressent cette étrange installation qu'est le diorama.
Et avec jardin, depuis la petite touffe d'herbe de Dürer jusqu'au jardin planétaire de Gilles Clément, qui d'ailleurs participe à cette masterclass de France Culture également, au fond, est-ce que c'est l'image d'un musée miroir du monde que vous cherchez à donner?
En tout cas, pour employer un terme très français, c'est un feel-good show. Voilà, c'est-à-dire que je me sentais pas de temps en temps, on a envie tout simplement de partager son plaisir. Voilà, et donc on a rassemblé 400 œuvres, 400 moments un peu magiques, et j'allais dire un mot qui fâche, des belles œuvres. Voilà, et donc on a essayé de créer une petite histoire en 15 chapitres, parce que dans les jardins, il faut savoir se perdre aussi. Et on part de la Renaissance pour aller jusqu'à nos jours, mais c'est pas une exposition chronologique. C'est en thème, donc le contemporain dialogue avec l'historique. Et je touche du bois parce que l'exposition ouvre dans quelques jours, mais on a là une réunion, je crois, un peu inédite d'œuvres venant de l'Europe entière qui va essayer de définir ce qu'est ce jardin que Gilles Clément, puisque vous le citiez, définit comme un territoire mental d'espérance, comme l'union d'un morceau de terre et de l'éternité. Et au fond, je crois que ça résume bien ce qu'est aussi le musée.
En 2013, vous avez publié, Laurent Lebon, avec Jean de Loisy et Yves Le Fur, un livre qui s'intitulait « Une autre histoire de l'art », qui examinait l'histoire de l'art, finalement, hors de ses sentiers battus, comme son titre l'indique. On a l'impression que c'est un peu votre méthode de travail, que vous recensez, finalement, tous les secteurs qui sont peu labourés, pourrait-on dire ?
Bon, en tout cas, vous l'avez dit très aimablement en introduction, je suis un peu le parangon du technocrate de la culture. et donc, ce qui m'habite depuis 30 ans, c'est effectivement de prendre un peu les chemins de traverse. Voilà, je crois que c'est ça qui nous occupe, c'est ça qui nous rend forts, c'est ça qui nous fait aller de l'avant. Voilà, donc aller toujours dans le même sillon, ça me passionne. Mais j'aime quand même les chemins de traverse et passer par les petits détours qui nous font peut-être parfois mieux comprendre le grand axe.
C'est à ce que j'allais dire. C'est aussi une manière de montrer la grande continuité de l'histoire de l'art de manière un peu plus inattendue.
Bon, en tout cas, j'ai toujours adoré les historiens d'art spécialistes de la Renaissance mais qui défendaient des artistes contemporains. Et j'ai toujours adoré les grands critiques d'art contemporain qui arrivaient à nous expliquer tout le contenu de la grotte Chauvet. Je pense que ce sont eux qui me passionnent le plus. Ce qui n'enlève rien aux spécialistes d'une période, d'une technique ou autre. Mais pour moi, ce métier qui n'en est pas un, cette science qui n'en est pas une, c'est justement sa force. C'est comme cette phrase de Picabia qui a fait l'objet de deux très belles expositions récemment en Suisse et aux États-Unis. Il dit « On a une tête ronde pour aller dans toutes les directions ». Je crois que c'est vraiment ça le sens de nos métiers.
Dans cette masterclass de France Culture, la question est souvent posée aux artistes de savoir à quel point ils sont préoccupés par la postérité. On les interroge sur leur intérêt pour les prix, pour les récompenses. Alors, pour un conservateur et un commissaire d'exposition que vous êtes, c'est un peu différent. Vous avez reçu des décorations de ce genre un peu inattendues. Mais surtout, la question que je me posais, c'est finalement comment on peut conserver la trace d'une exposition. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des expositions. Est-ce que finalement, pour conclure cette séance, vous pensez qu'une exposition peut se rejouer au fil du temps et peut continuer à exister au-delà de sa date de fermeture ?
Très difficilement. Et c'est ça qui en fait sa force. C'est-à-dire, contrairement au cinéma, où bientôt, depuis Hollywood, un producteur va appuyer sur un bouton, si ce n'est déjà fait, et peut, d'un geste, avoir un film diffusé sur des milliers d'écrans via la magie du numérique. Je pense qu'on le disait tout à l'heure, l'exposition, c'est ce moment, ce précipité chimique magique, ce rassemblement absolument d'un moment, bref. Et on le voit avec Vermeer, avec Stoukine, c'est ça qui crée. Et c'est l'aura juste et précise. Et quand ça marche, c'est une histoire absolument difficilement reproductible. Après, évidemment, il y a beaucoup d'expositions qui circulent. Et donc, c'est ça qui est passionnant. Ça m'est arrivé une fois de faire 2-3 publications où j'essayais de montrer justement comment, avec un même corpus d'œuvres, et finalement, on rejoue dans un espace une exposition totalement différente, comme ça arrive souvent dans une mise en scène d'opéra ou comme un soliste va jouer un jour un concert et évidemment va être dans une autre humeur un autre soir. Voilà, mais nous sommes quand même de plus modestes dans notre propos puisque les œuvres nous dépassent.
Mais est-ce que ce sont des questions que vous vous posez pour vos propres expositions qui ont singularité ?
Je crois l'avoir dit de manière un petit peu humoristique en racontant l'histoire des directeurs du musée Picasso tout à l'heure. Je crois que la postérité, c'est pas forcément le centre de nos propos. Ce qui est intéressant, c'est de se battre pour essayer de créer ces petits chapitres qu'on essaye de toujours innover. Et puis voilà, c'est ça qui nous habite. Sinon, ça sert à rien d'aller de l'avant. C'est comme pour nos amis auditeurs et auditrices qui évidemment ne voient rien, même si je vois des caméras. Je disais tout à l'heure que j'étais arrivé à la page 4 de Wikipédia. Donc c'est le moment où Picasso avance un peu dans le temps. Il arrive au cubisme. Mais avant, il y a eu la période bleue. Voilà, et il y a de ça une trentaine d'années, un de mes rares chocs esthétiques dans ma jeunesse était de tomber sur cet ouvrage de Pierre Dex, qui était le catalogue raisonné de la période bleue et de la période rose, et je m'étais dit qu'un jour je ferais une exposition là-dessus. Voilà, bon, puis le temps a passé, j'y suis jamais arrivé, puis pour l'ouverture du centre Pompidou-Metz, j'ai voulu faire ça, et je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire, pour X et Y raison, ça ne s'est pas fait, ça s'est transformé en chef-d'œuvre. Voilà. Et à cette époque-là, jamais j'aurais imaginé une minute que le musée Picasso allait arriver dans mon histoire professionnelle. Voilà. Et donc, l'année prochaine, je pourrais faire une exposition sur la période bleue et la période rose, voilà, qui n'a jamais été faite en France. Et ben, je suis content. Et ce soir, pour le public, j'ai mis des chaussettes roses, voilà, pour aucune allusion politique. Mais alors, je voulais mettre un jean bleu, mais j'en ai pas trouvé là, de propre pour cet après-midi, parce qu'il fallait bien quand même que je m'habille bien pour un tel public. C'était juste un petit message pour dire que derrière la mélancolie, il y a toujours un petit peu d'optimisme et de bonheur, et je crois que c'est aussi une des leçons que Picasso peut nous faire passer.
Merci beaucoup Laurent Lebon.
Merci à vous.
C'était la masterclass de Laurent Lebon avec Anaël Pijat. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.